Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Pour la première émission Data Santé de 2021, nous recevons Dr. Yves Bonnivigé. Dr. Bonnivigé est médecin épidémiologiste spécialiste en santé publique et médecine préventive. Il occupe le poste de directeur régional de la santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et est également professeur agrégé au département de médecine sociale et préventive à la faculté de médecine de l'Université Laval. Dr. Bonnivigé est engagé dans sa communauté depuis sa jeunesse. Entre autres, en 2014, il a contribué à la création de la Clinique Spot, clinique qui offre des soins de santé auprès des clientèles désaffiliées de la région de Québec. Aujourd'hui, Dr. Bonnivigé nous présente un sujet qui lui tient à cœur, soit celui des inégalités sociales de santé, plus particulièrement de son déterminant économique. Donc, sans plus tarder, bonjour Dr. Bonnivigé.
Oui, bonjour.
Donc, pour commencer, pour bien établir les bases de l'entrevue, je vous demande, qu'est-ce qu'un déterminant social de santé?
La santé, elle se construit tout au long de la vie, chez chaque personne, mais aussi dans chaque communauté. Elle se construit à partir de réponses à certains besoins de base d'une part, c'est-à-dire que quelqu'un a besoin de manger, de se nourrir, de se loger, de se vêtir, de se transporter, de communiquer avec les autres. Il y a aussi besoin d'un environnement dans lequel une famille dans laquelle il peut grandir, se sentir en sécurité, découvrir qui il est. Il a besoin d'une communauté qui entoure toutes ces familles-là. Il va avoir besoin de milieu de travail. Il a besoin d'un environnement de lois, de règlements dans un pays. Et tout ça constitue des déterminants de ce qui va permettre de construire une bonne ou une mauvaise santé. Alors, les déterminants de la santé sont ce qui l'environnement externe à la personne qui va permettre à cette personne-là de se construire comme être humain.
Parfait, merci beaucoup. Ensuite de ça, en quoi les déterminants économiques affectent-ils la santé?
Bon, ça c'est une question importante. On sait très bien que les gens qui ont un manque de besoins fondamentaux vont développer des maladies. C'est évident pour des éléments comme la nutrition, comme le vêtement, le logement, etc., parce que l'on voit bien les effets. Parfois, de façon chronique, être privé de capacité de prendre des décisions parce qu'on n'a pas les moyens de les prendre, ça induit aussi un stress à long terme et ça a un effet sur la santé. Alors, quand on regarde l'espérance de vie des différentes personnes et des différentes communautés même, il y a un lien étroit entre le revenu disponible, compte tenu du coût de la vie dans l'endroit où les gens vivent, et leur niveau de santé. Et c'est pas le seul, évidemment, le déterminant de l'espérance de vie. C'en est un parmi d'autres. Mais c'est quand même quelque chose que l'on constate de façon régulière à travers le monde et à travers même nos propres communautés. Par exemple, on sait très bien que les gens qui vivent du côté d'Hochelaga-Maisonneuve à Montréal ont une espérance de vie à peu près 10 ans inférieure aux gens qui vont vivre dans des quartiers comme Outremont ou dans l'ouest de Montréal. Donc, et c'est, on le voit à Québec, on le voit un peu partout. Et donc, la capacité d'avoir de pouvoir répondre minimalement à ses besoins de base influence considérablement donc la santé des gens et des familles. Et au niveau international, on le voit aussi de façon très claire, les niveaux de revenus de certains pays sont directement reliés aussi à l'espérance de vie que l'on retrouve dans ces pays.
Mmh, oui, c'est important là, d'en prendre conscience. Ensuite de ça, en quoi l'assurance revenu de base permettrait-elle de pallier à un déterminant économique défavorable?
Ben, l'idée d'avoir un revenu de base nous vient d'abord de penseurs qui ont commencé à réfléchir à ça il y a déjà plusieurs siècles. Mais à un moment donné, après ce qu'on a connu au 19e siècle, les deux grandes guerres, je pense qu'il y a eu comme un relent de sagesse parmi les humains. Puis on a eu la Déclaration des droits de l'homme. Et dans cette déclaration, à l'article 25, on dit que tous les humains ont droit à une éducation, ont droit à la santé, ont droit à se nourrir convenablement, se loger convenablement. Donc, tous les besoins de base ont été inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 25, entre autres. Et cette volonté qui exprimait une certaine sagesse collective n'est toujours pas réalisée. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que tout le monde a ses revenus de base nécessaires pour pouvoir assurer ses besoins de base. Alors, si quand on regarde les programmes que l'on a pour le soutien aux revenus sont souvent conditionnels. Ils sont conditionnels au fait de se déclarer pauvre. Ils sont conditionnels souvent à des examens, conditionnels au fait que nos dernières ressources doivent être dépensées avant qu'on commence à nous aider. Et ça, ça crée de la ségrégation et de la discrimination. D'abord, ça peut empêcher les gens de demander de l'aide parce qu'il y a une honte qui s'installe. Et puis, il faut pouvoir assurer à tout le monde les besoins de base sans avoir recours à des programmes qui stigmatisent davantage les gens qui en ont besoin. L'autre chose aussi qui est dans la réflexion, c'est que sachant que les besoins de base sont essentiels à la santé, on sait que tout le monde peut se retrouver à un moment donné ou à un autre, pour toutes sortes de raisons, à ne plus jouir non du revenu qu'il a à un moment donné. Il y a des gens qui peuvent tomber malades, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent. Il peut y avoir la pandémie, par exemple, à un moment donné, qui vient tout changer les paramètres. Donc, si tout le monde avait la garantie de façon universelle et sans équivoque, sans examen, qu'à partir du moment où on a besoin d'un revenu de base, on puisse l'obtenir, ben on réduirait toute cette stigmatisation-là. Et on serait en mesure d'accorder à tout le monde la compensation de ses besoins de base, et donc d'enlever un stress énorme et vraiment améliorer par le fait même les aspects de santé de ces personnes-là. Alors, c'est un petit peu l'idée qui est venue aux directeurs et directrices de santé publique l'année passée. Pas l'année passée, c'est il y a quelques années déjà. On est déjà rendu 3 ans plus tard, je pense. Quand est venu le temps de renouveler le plan de lutte contre la pauvreté au Québec, de dire, ben au lieu de continuer avec des programmes conditionnels, ben allons-y avec un programme inconditionnel de revenus de base. L'idée, c'est développer davantage, peut-être dans nos deux régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-les-Îles. Et on est en train de proposer aux décideurs de faire un projet pilote là, sur ce sujet-là, qui serait une véritable assurance revenu de base, qui permettrait à tout le monde d'avoir accès à un revenu au moment où il y en a besoin. Et Donc, de s'assurer que minimalement, tout le monde a ce qu'il faut pour vivre correctement.
OK. Et ensuite de ça, comment est-ce que la scolarisation universelle gratuite contribuerait-elle à une meilleure santé?
Donc, ça fait partie des déterminants de la santé et c'est lié à la capacité de subvenir aussi à ses besoins, d'avoir un bon revenu. C'est souvent un proxy de la richesse des gens que leur niveau de scolarité. Mais donc, si on lit ça avec le revenu de base, ben on a dans notre société quelques programmes universels comme le programme de santé. C'est un programme universel, c'est une assurance qui permet à tout le monde de se faire soigner quand il en a besoin. Tout le monde y contribue, mais il n'y a pas de discrimination là, à l'entrée à la santé. Il y a peut-être des petites discriminations qui sont résiduelles, mais disons de façon systémique, il n'y en a pas. L'éducation est un autre programme universel qu'on s'est donné et qui permet de réduire les inégalités entre les personnes et les communautés. Et c'est aussi, on a d'autres programmes universels comme la pension de vieillesse ou l'allocation universelle pour enfants. Alors, tous ces programmes-là pourraient être facilement complétés par un programme universel de revenu de base qui viendrait, disons, nous donner une assise encore plus égalitaire et empêcherait qu'on ait des gens malades à cause de ces déterminants-là.
OK. Et en dessous de ça, quel est l'impact de l'assurance maladie sur les déterminants sociaux de la santé? Puis devrait-elle couvrir davantage de soins de santé et de services sociaux?
Bien, c'est un impact majeur. Je pense que si on n'avait pas ce programme universel-là, j'allais dire tout le monde qui a vécu avant l'assurance maladie, mais c'est pas, on est de moins en moins nombreux d'avoir vécu avant l'assurance maladie. Mais à l'époque, là, il y a des gens qui perdaient leur maison, perdaient tout ce qu'ils avaient ramassé dans leur vie au moment où ils tombaient malades. Ça pouvait détruire des familles entières parce que tout le monde se mettait à contribuer pour essayer de guérir quelqu'un. On essayait d'aller chercher toutes les ressources nécessaires. Et donc, c'était un phénomène d'appauvrissement considérable que de ne pas avoir accès à une assurance à l'époque. Et le fait de rendre cette assurance-là universelle, ça montre un peu un degré de civilisation un peu plus grand auquel nous sommes arrivés. Alors, je pense que c'est une fierté canadienne, cette assurance maladie-là là, qu'on doit nécessairement conserver et qui contribue certainement à ce qu'on est un des pays où l'espérance de vie est la plus élevée.
Puis diriez-vous que les États-Unis sont au même point que nous, on en était avant l'assurance maladie là, pour ce qui a trait des soins de santé?
Pour plusieurs, oui. Pour plusieurs c'est plus complexe que ça parce que les grands employeurs offrent des programmes d'assurance maladie à leurs employés. Les gens les plus pauvres sont ramassés par le Medicare. C'est les gens entre les deux là, souvent qui sont mal pris ou les gens qui perdent leur emploi, qui perdent en même temps que leur emploi, perdent leur assurance maladie. Alors, la situation aux États-Unis est assez désastreuse à ce titre-là. Et je pense qu'il y a une partie des Américains qui voudraient bien changer ça, mais il y a malheureusement une partie qui ne le comprennent pas. C'est toute la différence entre considérer la santé comme un droit ou la santé un privilège. Je pense que nous, on a réussi à se convaincre que la santé était un droit. Puis un peu quand on revient au revenu de base, on pense aussi que c'est un droit d'avoir des revenus suffisants pour survivre, pour répondre à ses besoins de base.
OK. Ensuite de ça, là, de quelle façon l'allocation universelle pour enfants permet-elle d'améliorer la santé? On en a parlé un peu tantôt.
Oui, ben c'est un peu la même chose. Le fait qu'elle soit universelle, elle donne un revenu à tout le monde. Puis ça, c'est intéressant parce que ça nous amène aussi, quand on pense au revenu de base universel, ça se présente comme une assurance revenu de base. Donc, comme l'allocation universelle, les gens peuvent le recevoir sans condition, mais c'est lors du rapport d'impôt que les gens vont remettre s'ils n'en ont pas eu besoin, cette allocation-là. Par exemple, on peut penser à quelqu'un qui gagne 100 000 $ mais à cause de la pandémie, il se retrouve avec zéro revenu pendant quelques mois. Bien, il peut demander, il pourrait, si on avait le régime en place, demander un revenu de base. Et mais si trois ou quatre mois plus tard, il retrouve un autre emploi lucratif, quand il ferait son rapport d'impôt, ben il remettrait tout simplement à la société cet argent-là qui l'a aidé à passer à travers pendant une certaine période, dont manifestement là, il n'a plus besoin. Alors, c'est un peu le mécanisme régulateur intéressant qu'on a de la fiscalité que l'on a aussi dans nos pays avancés, là, où on a des rapports d'impôts à faire. Donc, ça permet à tout le monde de pouvoir éventuellement vivre avec ce qu'il a vraiment besoin puis de remettre à la société ce qu'il a moins besoin.
OK. Puis, ça, là, une autre question sur le régime de pension là, de soutien aux personnes âgées. De quelle façon ce régime-là permet-il d'améliorer la santé?
Ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai pas le tableau de. On peut avoir le tableau devant nous à la radio, là. Mais quelqu'un qui regarde le taux de pauvreté dans la société et qui le regarde par tranche d'âge remarque que on a à peu près en moyenne autour de 10 % de gens qui vivent dans la pauvreté. Quels que soient les critères que l'on prenne, là, à peu près 10 % des gens qui vivent dans la pauvreté dans notre société, mais que ce taux de pauvreté-là diminue à 4 % quand on arrive à 65 ans. Et la différence est essentiellement parce qu'on a un régime de pension universel qui vient, puis un supplément de revenus garanti qui vient suppléer au manque de revenus des gens. Donc, il y a des gens qui espèrent juste avoir 65 ans dans la vie parce que ils vont pouvoir sortir peut-être d'un certain niveau de pauvreté. Alors, c'est un peu dommage. Je pense que si ça fonctionne bien à 65 ans, ça pourrait fonctionner à tous les niveaux d'âge. Alors, c'est un autre argument en faveur d'un revenu de base. Et quand les gens sortent de la pauvreté, ben ils sortent effectivement de d'autres déterminants qui sont plus ou moins bien ou en santé ou malades. Alors donc c'est un investissement collectif qui nous permettrait vraiment d'améliorer encore notre niveau de santé.
Mm-hmm. Puis je pense aussi que toutes ces mesures-là, ça s'imbrique dans la démarche un peu de santé durable, de santé. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça.
Définitivement, parce que là, on se donne des moyens pour que, quels que soient les risques individuels, collectivement, on les compense par justement une action en donnant un droit à tout le monde de pouvoir se relever. C'est pas évidemment, une fois qu'on aura compensé avec tout ça, un revenu de base, ça ne va pas nécessairement régler tous les problèmes. Il va toujours rester des gens dont les handicaps sont autres ou sont majeurs. Il va rester des familles dysfonctionnelles, même s'ils ont des revenus de base, etc. Donc, ça n'empêche pas tous nos programmes sociaux qu'on doit absolument maintenir. Ça n'empêche pas toute la solidarité qu'on doit maintenir entre nous dans toutes les circonstances. Mais c'est clair que ce serait une avancée importante pour améliorer la santé et bien-être de l'ensemble de la population. Puis, ben, il va nous rester aussi, même si on y arrivait ici, à réussir à convaincre l'ensemble de l'humanité de mettre ça partout, parce qu'il y a des pays où on est encore très, très loin. Tu as mentionné les États-Unis qui n'ont pas d'assurance maladie universelle. Il y a des pays qui n'ont pas d'assurance maladie tout court non plus aussi. Donc, collectivement, comme humanité, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais je pense que les bonnes idées qu'on a, on devrait les mettre en application le plus rapidement possible, là où c'est possible.
Croyez-vous que ça pourrait être réaliste à un moment dans l'histoire là, qu'on a une espèce d'assurance pour l'humanité qui englobe tout le monde?
Oui, ben, tu vois, curieusement, quand je suis rentré, quand j'étais un peu plus jeune, puis je rentrais en médecine, les gens trouvaient utopique de réfléchir à une assurance maladie universelle internationale. Puis ça se parle de plus en plus. On commence à réfléchir à collectiviser nos risques à l'échelle internationale. Puis je pense que quand on regarde aussi la proximité dans laquelle nous vivons tous et toutes là, au niveau sur la planète, on voit bien que les maladies peuvent, en particulier les maladies infectieuses, peuvent affecter tout le monde. Et que si on investissait collectivement pour que tout le monde soit en meilleure santé, bien, tout le monde le serait globalement.
Sûrement qu'avec la pandémie, ça va être un catalyseur pour ce débat-là.
Oui, c'est une belle leçon là, qui nous permet d'aller plus loin dans la réflexion, puis dans la réalisation de notre interdépendance.
Mm-hmm. J'ai peut-être une petite dernière question là, par rapport à la situation le plus spécifique des Premières Nations Inuit et Métis au Canada. Est-ce que vous pensez que ce serait pertinent de faire une allocation principalement pour les membres de ces communautés-là?
Ben, je pense qu'elle devrait avoir, comme toutes les autres communautés, droit à l'assurance maladie. Quand on parle d'universalité, c'est clair. À cause de toute l'histoire, les communautés autochtones ont beaucoup plus souffert et vivent encore avec un héritage de traumatisme auquel on doit être continuellement sensible. Donc, je pense que c'est pas tellement une allocation particulière. Je pense que l'allocation universelle ferait l'affaire, mais il va falloir probablement être plus attentif pour qu'ils se prévalent de cette allocation-là. Souvent, les gens s'auto-excluent à cause des traumatismes qu'ils ont vécu. C'est vrai dans les communautés autochtones, mais c'est vrai aussi dans certaines communautés dans notre... Puis c'est une des raisons pourquoi SPOT a été aussi mis en place. C'est qu'on a des concitoyens et concitoyennes qui s'excluent totalement de la société. Et il faut aller les rejoindre, il faut aller à leur rencontre et leur assurer un environnement sécuritaire aussi quand on les accueille avec nous. Alors, les communautés autochtones, c'est un peu la même chose. On ne peut pas nier le traumatisme qu'ils ont vécu. Donc, il faut avoir une approche encore plus bienveillante.
Donc, ça ferait le tour de mes questions. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Ça fut vraiment enrichissant puis super pertinent, surtout actuellement. Donc, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé.
Bien, merci de prendre le temps de réfléchir sur tous ces sujets-là. Je pense que c'est intéressant et important aussi, effectivement. Et bonne continuité.
Okay, merci beaucoup à vous et bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Bye.
Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval, affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivés au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. La trame sonore de l'émission est une réalisation de Mathieu Michaud. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. Merci pour votre écoute et à la prochaine!